France Culture. (12h-13h30) Les midis de culture. Marie Laborie.
Quand une interprète de génie sort de l'oubli, une musicienne, la violoncelliste Sol Gabetta, consacre un disque à Lise Christiani, pionnière du violoncelle au 19e siècle. Elle sera mon invitée à partir de 13h. Et on commence cette émission par l'exercice de la critique. Aujourd'hui, le spectacle vivant est à l'honneur avec Musée du Ras, la création fleuve de Julien Gosselin aux ateliers Berthier à Paris. Et puis Barbara par Barbara, mise en scène par Emmanuel Noblet, interprétée par Marie-Sophie Ferdan. C'est au théâtre du Rond-Point, également à Paris. Vous écoutez les midis de culture, et bien nous, on les fait. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Marie Sorbier, productrice du Point Culture ici même et rédactrice en chef de IO.
Bonjour Marie.
Bonjour. Victor Inizan, dramaturge et metteur en scène. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux. Vous avez donc, l'un et l'autre, vécu cette grande odyssée à travers l'œuvre de Duras que propose Julien Gosselin aux ateliers Berthier. 10 heures de spectacle, d'autant plus impressionnant que le metteur en scène, patron de l'Odéon, dirige 16 tout jeunes comédiens qui sont issus de la promotion sortante du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Par tranche de 2 heures, ils explorent les récits, les écrits de Marguerite Duras, L'Amant, Hiroshima Mon Amour, La Montre Anglaise, La Douleur, Suzanne Andler. Une expérience à laquelle le public est d'ailleurs parfois convié à participer. On va commencer, si vous le voulez bien, avec vous pour que vous nous expliquiez comment vous avez vécu cette expérience. Marie Sorbier.
Ben c'est une belle expérience. Moi, je trouve que c'est un magnifique cadeau que fait Julien Gosselin à ces tout jeunes comédiens. Parce que vous savez, on dit que les comédiens sont constitués des textes qu'ils ont joués. Et moi, j'ai eu l'impression que pendant ces 10 heures qui passent très vite, j'ai vraiment pas senti la sensation de longueur. Quand on dit 10 heures, on a l'impression que c'est quand même une journée. C'est vrai, on commence à 10 heures du matin, on finit à 20 heures le soir. Mais elle ne se sent pas, elle n'est pas pesante du tout. Le montage fait que ça passe très vite. Il y a des pauses régulières et puis tout change en fait. Les mises en scène changent souvent. Mais j'ai eu quand même l'impression de voir en fait le substrat qui va composer ces futurs comédiens. Il y en a certains d'entre eux qui sont vraiment très beaux, qu'on a découvert là et qu'on a vu grandir. Et je me disais, mais quel cadeau incroyable que leur a fait Julien Gosselin de leur donner comme base, comme premier spectacle, ces phrases de Duras qui, je suis sûre, vont les constituer pour toute leur vie de comédien.
Victor Inizan.
Oui, je partage totalement ce que vient
comment
de dire.
Comment vous l'avez vécu,
Marie? J'ai trouvé que c'était très puissant aussi. Moi, ça m'a beaucoup marqué comme comme spectacle. Peut-être pour revenir sur la structuration, effectivement, de ces 10 heures à vivre, c'est quelque chose. Et je trouve que, d'une certaine manière, c'est fait de manière assez perverse, mais au bon sens du terme, j'allais dire. C'est-à-dire que la structuration est déjà une dramaturgie. Ce sont 10 heures, effectivement. Mais, on va dire, à peu près toutes les heures, on a 10 minutes de pause, en fait. Et ces 10 minutes, elles sont assez bien pensées, je trouve, parce que elles nous permettent de sortir, vous voyez, de, quand on a des spectacles de 10 heures, c'est plutôt un gros morceau de 3 heures, et puis on va avoir un entracte d'une heure, par exemple. Là, c'est tout le temps 10 minutes. Et ça nous met dans une sorte d'état où on n'arrive jamais vraiment à se détacher de la forme, et qui, à mon avis, crée quelque chose d'assez intéressant. On n'a que 20 minutes pour manger. Ça nous laisse en tension permanente. Et ça, j'ai trouvé ça assez fort. Et ensuite, la deuxième chose en termes de sensation, c'est que, et moi qui suis, on va dire, qui, pour euphémiser, une relation un peu complexe avec le théâtre de Gosselin. J'ai trouvé, à mon avis, que c'était peut-être même son meilleur spectacle. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, en fait, il se débarrasse dans ce spectacle de ses artifices un peu blockbuster habituels, et il propose quelque chose, et à recevoir, c'est quand même très fort, de plus modeste, en fait, qu'à l'habituel, et de plus radical, en fait, finalement, dans cette espèce d'expérience ultime, mais qui, en même temps, je trouve, est très simple, finalement.
Et de plus au service, je prolonge ce que dit Victor, au service, vraiment, Julien Gosselin est au service de ses comédiens et de Duras, et les deux, je trouve, au même endroit. Et en effet, lui se met un peu en retrait. Et ça, c'est assez beau à voir. Quand on connaît les spectacles de Julien Gosselin, moi aussi, j'étais touchée par une espèce de position d'humilité par rapport à ces comédiens qui explosent et qu'on doit voir, et ces textes de Duras qu'il a montés de façon assez admirable, je trouve.
Alors voilà, il y a tout un travail. C'est-à-dire qu'on, quand on lit comme ça, on se dit, bon, ça peut faire patchwork. Il y a des textes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, des textes qui sont des romans, issus de romans, des textes qui sont faits pour être dits au départ. Voilà, alors quel est le travail en amont de Gosselin sur ces textes, Victor Inizan ?
On a l'impression, en fait, que donc c'est un musée du RAS, il appelle ça comme ça. Il y a vraiment cette impression, je crois, de un texte, une idée de dispositif, comme si d'ailleurs chaque partie était une œuvre, était une installation, vraiment pour filer un peu la métaphore.
D'ailleurs, on peut les voir séparément, les parties.
Exactement, et ça fait vraiment sens, c'est-à-dire que, alors, bon, on va en parler, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne moins, c'est-à-dire qu'il y a des parties, je trouve, pour lesquelles, voilà, ça, en tout cas, c'est toujours beau sur le papier, des fois ça se réalise un peu moins sur le plateau. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a vraiment un grand écart permanent entre des choses qui sont très narratives, on va dire, hein, on en reparlera dans L'Amant, par exemple, mais de l'autre côté, des parties qui sont aussi très dramatiques, et ça, c'est assez rare de voir ça chez Gosselin. Je pense notamment à Susanna Handler et à la Musica deuxième, et en fait on traverse vraiment le spectacle dans une sorte de vraiment de grand écart dramaturgique assez ahurissant. Bon, encore une fois, je dis c'est pour le meilleur et des fois un peu pour le pire. Il y a des parties forcément sur 10 heures qui fonctionnent moins, mais c'est quand même assez réjouissant de voir comme ça cette espèce de, il y a quelque chose de très ludique. En fait, finalement, c'est très ludique. C'est vraiment, on rentre à chaque fois après ces fameuses 10 minutes et bon, en réalité, la scène est très simple, hein, mais en tout cas, le dispositif va avoir changé, la dramaturgie va avoir changé légèrement, et ça, c'est vrai que c'est quand même très généreux, cette manière de rentrer à l'intérieur.
Alors, si vous voulez bien, Marie, encore une chose.
Oui, juste, moi, je voulais quand même dire que j'ai eu l'impression qu'il y avait un fil rouge. Alors, en effet, tous les textes sont très divers, même par leur forme, hein. Il y a des textes théoriques aussi, par exemple, au milieu, qui sont quand même pas faciles. On a du mal à y accéder, ouais. Mais quand même, ils sont présents. Et je trouve que, finalement, en sortant de là, je me suis dit, mais c'est incroyable, j'avais pas mesuré. Pourtant, je suis une lectrice de Duras, à quel point et comment elle parle des femmes. Pour moi, le vrai fil rouge, s'il y en a un, de ces 10 heures de spectacle, c'est la féminité vue par Duras. Alors, c'est une féminité un peu particulière. Elle est assez crue. Les scènes de sexe sont très présentes. C'est une féminité un peu martyrisée aussi. En même temps, ce sont des femmes fortes par endroit. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, cette femme, Marguerite Duras. Je comprends pourquoi la génération d'avant moi avait une fascination pour cette écrivaine que moi, j'ai découvert que plus tard. Et en fait, je comprends parce qu'elle a écrit du point de vue féminin, des choses qui certainement n'avaient pas été écrites avant elle, notamment des scènes de sexe. Le premier texte, c'est vraiment c'est quasiment un porno.
C'est
d'ailleurs, c'est
quoi.
Écrit, hein, porno, ouais. En gros, sur les. C'est très étonnant, mais écrire le sexe d'une façon aussi crue par une femme, dit du coup par une jeune fille, j'ai trouvé ça très puissant. Et en effet, pour moi, son fil rouge, c'est la féminité. Et d'ailleurs, il faut quand même le dire, les interprètes féminines sont largement ouais. Au-dessus des garçons dans cette mise en scène-là. Alors aussi parce que le texte les sert plus, elles, qu'eux, mais j'ai trouvé certaines d'entre elles vraiment formidables.
Je pense à quelque chose dans le dossier qu'on nous distribue. Julien Gosselin a choisi de mettre en exergue une réflexion de Duras sur le théâtre, qui n'a pas l'air de croire beaucoup au théâtre.
Non, il y a le texte théorique qui commence.
Oui, oui, c'est vrai qu'il y a ce texte théorique où elle parle, voilà, de la mise en scène, enfin de l'absence, en fait, surtout de mise en scène de texte féminin, qui est d'ailleurs qu'on voit un moment au plateau. Hein. C'est pas le, ce texte est assez amusant finalement. Il est au plateau à peu près au milieu des 10 heures. Il est suivi d'un autre texte qui est un peu plus aride
sur la peinture,
qui lui, je trouve, est quand même relativement hermétique et qui pour moi est plutôt un exemple des moments qui fonctionnent le moins. Cela dit, c'est vrai que ce texte sur le théâtre est un contrepoint assez amusant.
Elle dit en fait que le théâtre n'a pas besoin de corps, ce qui est quand même vraiment l'inverse de la théorie aujourd'hui et de ce qu'on est en train de voir, et que en fait une lecture suffit largement et qu'on n'a pas besoin d'interpréter.
Alors on va écouter un extrait tout de suite. C'est un extrait de L'Amant.
Maintenant, je vois que très jeune, à 18 ans, à 15 ans. J'ai eu ce visage prémonitoire de celui que j'ai attrapé ensuite avec l'alcool dans l'âge moyen de ma vie. L'alcool a rempli la fonction que Dieu n'a pas eue. Il a aussi eu celle de me tuer, de tuer. Ce visage d'alcool m'est venu avant l'alcool. L'alcool est venu le confirmer. J'ai en moi la place de ça. De même que j'ai en moi la place du désir, j'avais à 15 ans le visage de la jouissance et je ne connaissais pas la jouissance. Ce visage, je voyais très fort.
On vient d'entendre Alice da Luz Gómez dans L'Amant, c'est Musée du Ras aux ateliers Berthier. Marie, pour vous, c'est un des passages qui fonctionne le
mieux.
Oui,
moi, c'est mon coup de cœur. J'ai eu l'impression de rencontrer cette jeune actrice. Alors, le texte de L'Amant, pour moi, c'est un texte important dans ma vie de lectrice et notamment récemment, parce que vous savez, c'était les 40 ans, je crois, de L'Amant. Il y a eu un anniversaire il n'y a pas très longtemps. Donc, il a été réédité. Donc, je l'ai relu à cette occasion-là. Et le lire à 20 ans et le lire à 40 ans, c'est pas la même chose. Et donc, quand je l'ai relu, j'ai eu l'impression de voir tout ce que je n'avais pas vu. Donc, ça m'avait procuré beaucoup d'émotions. Et alors là, de le réentendre peu de temps après par cette toute jeune fille, incroyable, parce qu'en effet, dans le texte de Duras, dans L'Amant, elle a 15 ans ou 16 ans. Enfin, c'est vraiment le tout début de l'éveil à la sexualité. Et elle rencontre donc ce Chinois avec qui donc elle a une histoire. Et de réentendre ce texte-là dit avec une puissance vraiment étonnante par ce petit bout de fille qu'on vient d'entendre, ça m'a émue. J'ai trouvé que c'était un des passages qui marchait très bien. Là, la mise en scène est assez sobre. Hein. Elle est sur scène, elle fait des allers-retours sur le plateau. On l'a peut-être pas dit, mais la disposition est en bifrontale. Donc, c'est une scène longue et donc on voit le public des deux côtés. Et il y a cette musique en live qu'on a entendu là dans l'extrait, le musicien est toujours présent sur le côté et sur scène, donc ça mixe en direct, et là, il y a une montée dramatique qui est évidemment aidée par la musique, mais c'est quand même la performeuse, c'est l'actrice qui porte ce texte, et j'ai trouvé que ce texte, dit par une si jeune fille, je sais pas, d'un coup, ça a révélé toute la puissance de Duras, c'est un des très beaux moments du spectacle pour moi.
Victor Hénison ?
J'ai l'impression qu'on a tous le même coup de cœur, et c'est pas pour rien, c'est qu'effectivement, ce passage est vraiment exceptionnel, donc je rejoins tout à fait ce qu'a dit Marie. J'aurais quand même nuancé un tout petit peu, mais c'est pour chipoter. Je trouve quand même, pour revenir sur ce que vous dites sur l'aspect effectivement climax comme ça où ça grimpe de manière dramatique, c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup dans le théâtre de Julien Gosselin en général, qui revient aussi beaucoup dans Musée du Ras. C'est, on va dire, excusable parce que ça dure 10 heures. Il y a aussi une stratégie de l'attention qui est mise en place forcément pour nous tenir. Mais je trouve des fois que ça a quand même tendance un peu à dramatiser ce qui est déjà dramatique. Il y a comme des sortes de restes, on va dire, de blockbuster dans cette espèce de dispositif plus modeste. Néanmoins, moi, ce qui m'a vraiment frappé et ce qui m'intéresse avec ce spectacle, c'est ce retour au théâtre. C'est quelque chose de retour à la modestie.
Il faut comprendre, c'est-à-dire, en quoi vous faites une opposition avec ce que vous aviez vu ou ce qui vous plaît moyennement, on a bien compris, de Julien Gosselin d'habitude.
C'est-à-dire que, effectivement, le théâtre de Julien Gosselin est, comment dire ça, c'est un théâtre qui est assez mastoc, on va dire, c'est-à-dire mastoc et qui a déjà fait c'est généralement des formes assez longues, quand même, dans l'ensemble, des formes plutôt romanesques, il a monté Bolaño, Don de Lillo, etc.
Houellebecq,
voilà, donc des auteurs, pas toujours, enfin voilà, on va dire, moi, en tout cas, qui me parle pas plus que ça. À l'exception de Bolaño quand même, mais c'est vrai que ce sont des dispositifs qui sont quand même assez chers, assez énormes, enfin voilà. Et là, c'est vrai que en fait, ce qu'on perd finalement en taille du dispositif, à mon avis, on le gagne vraiment en radicalité. Hein, Marie le disait, c'est un bifrontal, c'est une sorte de petite boîte blanche en fait à l'intérieur, et il y a presque pas de scéno, quoi. Et ça, c'est quand même assez fort parce que ça permet quoi ? Et là, par exemple, si je prends Susanna Handler et la Musica deuxième, donc qui sont deux pièces qui sont aussi présentes dans les 10 heures, il n'y a tout simplement rien. C'est-à-dire que ce sont juste des acteurs. On a l'impression, et d'ailleurs, je pense que c'est vraiment lié aussi à l'économie du spectacle, donc c'est la promotion sortante du conservatoire.
C'est un spectacle de fin d'année.
C'est un spectacle de fin d'année. Mais c'est super. Ouais. C'est-à-dire que c'est super parce que c'est des acteurs sur le plateau qui font une étude. Ils dissèquent une pièce. Et ce qui est assez génial, qui plus est, c'est qu'ils n'ont pas les bons âges. C'est-à-dire que Susanna Handler, elle n'a pas 22, 23 ans. La Musica deuxième, pareil. Alors, Musica deuxième, ils ont un peu triché parce qu'ils ont pris un acteur fétiche de Gosselin pour jouer le rôle principal, Denis Arié. Mais c'est assez beau parce que précisément, je trouve que le fait qu'ils aient pas les bons âges, ça déréalise complètement, ça nous distancie.
C'est du théâtre, quoi.
C'est du théâtre. On est au théâtre. Et il y a quelque chose d'assez brechtien là-dedans. D'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos, évidemment, je l'ai pas dit dans le spectacle de Gosselin, puis dans Gosselin en général. Ce sont les comédiens eux-mêmes qui sont les caméramans, et donc qui se filment. Donc il y a aussi quelque chose de très simple là-dedans qui, moi, m'a touché, quoi.
Marie ?
Oui, pour revenir sur le théâtre, et je suis d'accord avec Victor, il y a des vrais moments de théâtre, pas que, mais il y en a au sens très classique du terme, c'est-à-dire des acteurs qui jouent ensemble. Et notamment, je voulais revenir sur L'Amante anglaise, parce que.
On l'a vu plusieurs fois.
Voilà, ouais. On en a beaucoup parlé cette année. Il y a eu déjà deux mises en scène, avec Bonner et avec Dominique Raymond dans les rôles principaux, donc ne serait-ce que là, en une saison théâtrale, donc ça fait la troisième fois que je voyais L'Amante anglaise, qui n'est pas du tout ma pièce préférée de Duras. J'ai même un peu du mal à la comprendre, c'est un fait divers, elle reprend, c'était sa période fait divers. Et donc, là, pour le coup, il fait une véritable adaptation. Donc, on n'a pas la pièce en entier, on a un bout de la pièce. Et je trouve que là, le théâtre marche à plein bien. Il a quelques idées de mise en scène qui sont super, notamment que toutes les chaises qui étaient en bifrontal se retrouvent sur la scène. Donc, il y a une partie du public qui est sur la scène et qui regarde un écran. Or, la pièce se joue dans leur dos. C'est-à-dire qu'il y a une autre partie de la scène qui est derrière. Donc, on voit le spectateur regarder un écran. Écran qui retransmet des scènes qui est filmé derrière. Bon, c'est un principe assez marrant, donc les gens savent plus trop regarder derrière, devant. Mais ce qui se passe là et son découpage de la mante anglaise, qui est pas l'un après l'autre comme dans le texte original, mais qui est monté un peu comme une série. Ça fait presque penser à un téléfilm un peu hein, de France 3.
C'est
parce que
c'est un peu le problème d'ailleurs aussi.
Alors il y a des accents du Nord, il y a les affiches de Le Pen dans le commissariat, donc il y a un petit côté comme ça. Mais quand même, je trouve que là, il y a eu une proposition de mise en scène et j'ai entendu la mante anglaise différemment des deux premières fois. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de plus... Je sais pas comment dire, bizarrement, moi, de plus contemporain dans cette mise en scène-là que celle que
j'ai. Oui, il y a moins de silence, apparemment. Il est.
Ah oui, ça va très vite. Ça, il a tout condensé, accéléré, un peu punché. Mais je vois.
Victor Raison, il fait mouille de petite moue radiophonique.
En fait, je suis d'accord sur le côté condensation et en général, et je l'appliquerai presque à tout ce qu'on voit, c'est que cette logique, encore une fois, de venir tout ramasser comme ça et de dire tout très vite, ça fonctionne toujours. C'est pareil, c'est cette espèce de stratégie de l'attention, on va tout nous montrer. Après, vous parliez de téléfilm et c'est effectivement ce à quoi je pensais aussi, mais plutôt du coup au mauvais sens du terme. Et je trouve que c'est un peu un revers d'ailleurs de son rapport à l'image des fois. Je trouve que dans La Mante Anglaise, c'est assez visible. C'est que quand le dispositif est pas assez radical, et j'entends ce que vous dites effectivement sur cette scène qui est jouée dans notre dos, moi je théoriquement je l'entends, mais après en termes de puissance dramatique, ça me parle un peu moins. Je trouve que des fois ça tend un peu vers le téléfilm, dans La Mante Anglaise notamment, même si il y a quelque chose d'assez amusant hein, dans cette condensation, ça, là-dessus je vous rejoins. Et encore plus, je trouve, dans Hiroshima, mon amour, qui moi, bon, est un texte qui m'a toujours ennuyé, donc il y a peut-être aussi ce rapport qui était un peu biaisé dès le début, où je trouve du coup là aussi, là je trouve que ça fonctionne moins. Pareil, parce que ça fait un peu téléfilm quand ils sont dans la chambre, etc. Enfin, je trouve ça assez mauvais. Et aussi parce que du coup, ils mélangent ce régime dramatique qui est un peu téléfilm, un peu même, et même un peu bourgeois d'ailleurs, avec un régime narratif où là, ils se mettent à faire de l'autotune, ce qui est vraiment pas très bon. Par ailleurs, le problème n'est pas l'autotune. Hein. À la toute dernière forme qui clôt le spectacle, c'est l'homme atlantique. Et là, il y a de l'autotune et ça marche. Donc,
Aussi dans l'amant d'ailleurs.
Il y en avait aussi dans l'amant, effectivement, et ça marche.
Très
bien.
Ça marche très bien.
Et puis on a une sorte de régime performatif aussi là où on vient carrément filmer les spectateurs, voilà, pour parler de l'horreur. Bon, je trouve tout ça quand même un peu gros, mais c'est encore une fois pour revenir, des fois le dispositif fonctionne juste sur le papier et des fois il fonctionne sur le papier et sur scène.
On termine avec un dernier petit mot,
Marie. Un minuscule mot parce que je voulais quand même revenir sur l'importance du texte et le statut du texte dans ce spectacle-là. J'entends le texte projeté parce qu'il y a donc des écrans, le spectacle est surtitré en anglais, il faut le dire. Les jeunes comédiens parlent d'ailleurs plein d'autres langues étrangères, donc il y a des morceaux de texte dans leur langue. Enfin bon, c'est assez beau, cette espèce de Babylone, un peu comme ça. Mais moi, j'ai été frappée par ce texte parce que ce n'est pas que du surtitrage. C'est... Il y a presque un texte qui s'écrit en plus. C'est une façon c'est un autre matériau, c'est une façon d'accéder à ces pièces autrement en les lisant. Il y a des mots plus gros, ça joue sur l'échelle, ça joue sur la vitesse, sur la couleur des mots. Il y a quand même tout un travail là-dessus que j'ai trouvé intéressant de ne pas laisser le surtitre comme juste surtitrage.
On aurait pu faire l'émission dessus, mais malheureusement, on ne va pas le faire. Musée Duras de Julien Gosselin, d'après Marguerite Duras. Donc, c'est jusqu'au 30 novembre au Théâtre de l'Odéon, aux ateliers Berthier. Et je précise que Julien Gosselin sera l'invité du Book Club de Marie Richeux lundi 24 novembre.
12h, 13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
On passe à un spectacle qui lui aussi tente de faire entendre les mots d'une femme incandescente et amoureuse. Elles se sont connues d'ailleurs à l'époque. Barbara, c'est au Théâtre du Rond-Point. Emmanuel Noblet met en scène la comédienne Marie-Sophie Ferdan dans Barbara par Barbara. Les textes sont un montage d'interviews, d'archives, de lettres, mis en forme par le romancier Arnaud Catherine. Sur scène, un pianiste accompagne les mots qui sont dits et parfois chantés. On commence justement avec quelques petits mots de votre part. Victorine Nizan.
Moi, je m'attendais à une sorte de bonbon assez impersonnel, d'autant vu la jeunesse du spectacle, puisqu'il y a d'abord eu une lecture qui a été faite à l'occasion de la rétrospective Barbara en 2017, et puis le spectacle est né de là, c'est-à-dire que c'est en fait une commande, hein, tout simplement, Emmanuel Noblet. Donc, il y avait des chances que ce soit relativement dépourvu de vision, pour le dire comme ça. Alors... Ça reste inoffensif, c'est sûr, mais je trouve quand même que c'est un spectacle qui a l'intelligence de s'amuser autour de la périphérie de Barbara, si bien que je trouve que c'est un spectacle périphérique, mais pas au mauvais sens du terme, bizarrement, même si on y reviendra, tout n'est pas réussi. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'était plutôt malin.
Marie Sorbier.
Oui, c'est une petite forme, bien faite, je trouve, et qui surtout répond à la promesse du titre, hein, Barbara par Barbara, c'est exactement ce que vous allez voir. Ça ne cherche pas à faire de l'effet, moi je trouve ça plutôt juste, en fait. Et l'idée dramaturgique qui sous-tend l'ensemble, c'est-à-dire de montrer Barbara par sa pensée et non plus par ses chansons, je trouve que ça tient dramaturgiquement.
Allez, on écoute Madame Arthur par Marie-Sophie Ferdan.
Madame Arthur est une femme qui fit parler, n'elle longtemps sans presse, sans rien, sans réclame. Et tu me fous les dames, ce genre de choses, voilà. Et je vendais des Coca-Cola pour gagner un petit peu ma vie, parce que bon, ben, ça gagnait pas très fort dans ce petit cabaret belge. Je lui disais, ouais, à l'entracte, est-ce que vous voulez un petit Coca-Cola, mesdames et messieurs, qui a deux francs belges pour moi, voilà, à qui veut un petit Coca-Cola, papapada, ça me plaît. Est-ce que par exemple vous voudriez un petit Coca-Cola, vous diriez un Coca-Cola, est-ce que vous voulez? Si vous en avez un sou, je vous le donne, si vous n'avez pas de sou, je ne le donne pas, il n'y a personne. Si, pas de belge, pas mignon, pour je mange le bon Coca-Cola, et j'ai continué de chanter. Madame Arthur est une femme qui vit parler, dès le longtemps sans presse, sans rien, sans réclame, elle qui le foule d'avant.
Barbara par Barbara avec Marie-Sophie Ferdan. Victor Inizan, la périphérie de Barbara, que vouliez-vous dire?
Bah, en fait, ce qu'on voit, j'ai l'impression, dans ce spectacle, c'est une sorte de contre-emploi général. Contre-emploi parce qu'effectivement, bah, Marie-Sophie Ferdan ne ressemble pas particulièrement à Barbara. Donc on en garde elle limite, on va dire, un peu le débit de Barbara. Mais c'est tout et on cherche pas plus. Et c'est très bien.
Elle est pas en noir?
Non. Elle est pas du tout en noir. Elle est avec un pantalon blanc et un haut vert. Donc c'est-à-dire que c'est presque...
C'est l'inverse du noir.
Voilà, ouais. C'est l'inverse du noir, si on peut dire ça comme ça. Et puis c'est pareil d'ailleurs pour le plateau, qui est tout blanc. C'est une sorte de studio de radio, enfin on va dire comme ça, voilà. Qui est éclairé de manière très blanche, très froide aussi. C'est presque caricatural, tellement on voit qu'ils ont envie de pas du tout faire Barbara. Et en même temps, je trouve ça assez intéressant parce que c'est vraiment l'occasion de se débarrasser un peu de l'espèce d'enrobage aussi esthétique auquel on a pu réduire Barbara, c'est-à-dire voilà les robes noires, les plumes, etc. Pour prendre du coup la chanteuse à un endroit beaucoup plus justement périphérique, plus oblique. Et je trouve que ça fonctionne assez bien avec cette idée de montage d'archives retrouvées parce que on va s'intéresser à des matériaux qui sont plus intimes et qui sont aussi plus fragmentaires de la vie de Barbara. On épuise carrément les médiums, quoi. Il y a des correspondances, il y a des interviews, il y a des dialogues un peu recomposés, etc. Et c'est un peu pareil, je trouve, pour son compagnon, son comparse Olivier Marguerite sur le plateau, qui se détache vraiment de l'interprétation de Barbara. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de chansons. Là, on en a entendu une, mais c'est pas ce qui occupe le plus le spectacle. On a des petits thèmes au piano, on a même un arrangement plutôt pop de Barbara, une chanson de Gainsbourg, etc. Et je trouve que ça fonctionne quand même plutôt bien, cette espèce de narration qui donne d'ailleurs une sorte de sensation chronologique, alors que pourtant c'est quand même très fragmentaire à la base, et dans une forme qui est à la fois oblique, même si Marie-Sophie Ferdan nous parle directement à nous. Donc c'est à la fois un peu oblique, un peu frontal. Bon, c'est intelligent dramaturgiquement, quoi.
Marie Sorbier.
Oui, alors moi j'ai eu plein d'effets différents. C'est-à-dire je suis pas toujours très touchée par le jeu de Marie-Sophie Ferdan, qui je trouve est toujours très maîtrisé, hein. C'est une grande actrice, c'est pas ce que je veux dire, mais moi elle me touche pas, c'est-à-dire qu'elle a quelque chose de tellement maîtrisé qu'il y a peu d'émotions souvent qui passent. Et Barbara, pour moi, c'est quand même ce qu'on peut faire de plus d'émotions, on peut pas faire plus que Barbara. Donc je me demandais comment ces deux-là allaient se rencontrer, et en effet, elle maîtrise, c'est-à-dire qu'on sent que pour elle c'est important, pour Marie-Sophie Ferdan, on sent que c'est important de dire ces textes-là, et je comprends pourquoi, mais ça m'a manqué un tout petit peu dans le jeu de fragilité, en fait, de faille, en fait, de quelque chose qui sort. C'est très maîtrisé, elle tient son truc. Bon, mais je disais pourquoi je la comprends, parce que il y a quelque chose ce qui m'a le plus touchée et intéressée, c'est le rapport de Barbara avec la scène. Parce qu'elle a, dans ces extraits d'interviews qu'on entend, les journalistes lui demandent des questions assez classiques, enfin, ce qu'on peut faire tout le temps.
Questions débiles, hein. Le journaliste.
Voilà. Exactement, avec des artistes, quoi. Bon. Et ce qu'elle répond, je trouve ça d'une grande intelligence, notamment quand elle parle du présent. C'est-à-dire que Barbara, c'est quelqu'un qui a toujours dit, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Le seul truc qui existe au monde, c'est l'instant présent. Et qu'est-ce qui se passe quand un acteur est en scène ou une chanteuse est en scène? Eh bien, il doit investir ce présent absolu qu'est le temps de la représentation. Je le dis très mal, elle le dit très bien parce qu'elle le dit avec ses tripes. Et donc quand Marie-Sophie Ferdan reprend ses extraits d'interview où Barbara essaie d'expliquer aux journalistes qu'en fait il n'y a rien d'autre que le moment de la scène, parce que c'est l'espace sacré par excellence, et que ce qu'on cherche, c'est ce présent absolu, c'est ce qui travaille tous les acteurs depuis toute éternité, le présent, quoi, de comment on est au présent dans une pièce. Et donc, je comprends qu'une actrice soit fascinée par Barbara qui raconte ça, et moi-même, qui ne suis pas actrice, je trouve ça hyper intéressant en termes de jeu, ça m'a intéressée, ce que Barbara pouvait décrire comme la présence, en fait. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire être sur scène? L'espace sacré, tout ça m'a fascinée, puis elle le dit avec un langage très simple, hein, qui est son langage à elle. C'est pas du tout théorique, là j'essaie de le théoriser, mais c'est pas du tout ce qu'elle fait, elle répond avec ses tripes. Et aussi, je trouve que dans le montage de texte, que ce qui est assez réussi, c'est qu'on montre aussi une Barbara qui n'est pas que la femme en noir un peu mystérieuse, un peu glauque, un peu fermée, un peu chagrinée. Elle est plutôt légère par moments, elle est assez drôle, elle essaie de l'être, et donc ça c'est plutôt drôle même quand elle y réussit pas. On voit une Barbara plus sautillante, et là-dedans, je trouve que son comparse sur scène fait beaucoup de bien.
Alors c'est le pianiste dont vous parlez.
C'est le pianiste-chanteur, ouais. Oui. Qui joue d'ailleurs son pianiste-chanteur, mais qui aussi parfois ne joue rien à part d'être là et de jouer des thèmes au piano. Et je trouve que c'est une présence très différente de celle de Marie-Sophie Jerdan, parce qu'il est, lui, pour le coup, il est beaucoup plus suspendu,
exactement.
Il est léger, et il est surtout, lui, dans l'émotion. C'est-à-dire que quand il se met à chanter ou à parler, là, il y a une émotion qui pointe, que n'a pas forcément l'actrice. Et donc, finalement, les deux ensemble, je trouve que ça donne un spectacle qui se tient.
Victorine Hissin.
Je voudrais revenir effectivement sur cette absence de fragilité dont vous parliez, Marie. Je suis assez d'accord. C'est peut-être le revers de l'intelligence aussi du spectacle bien fagoté. C'est que du coup, je trouve que c'est aussi un spectacle qui passe beaucoup de temps à déjouer les pièges dans lesquels il aurait pu tomber. Et donc, c'est un spectacle de slalom. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à dire on va pas faire ça, on va pas tomber là-dedans. Mais du coup, il est presque aussi un peu trop malin, un peu trop intelligent, un peu trop timide aussi sur certains endroits. Et c'est pour ça que je disais, c'est le problème de la périphérie. Bah, c'est que la périphérie, par définition, c'est périphérique. Et donc, est-ce que ce spectacle... Moi, évidemment, comme tout le monde, j'allais dire, j'aime Barbara, mais il y a aussi cette chose, du coup, avec le montage d'archives, de est-ce qu'on n'est pas aussi un peu en train d'essorer aussi ce qui resterait d'une star, comme ça, pour voir ce qui reste
Des spectacles sur Barbara, il y en a eu
énormément.
Tonnes.
Et c'est pour ça que je pense que ça me donne, moi, une vraie amitié, quand même, pour celui-là, par rapport à d'autres. C'est qu'il prend tellement tout à contre-pied, que finalement, c'est vrai que c'est assez jouissif de se dire, voilà, on a mis tout blanc, etc., tout ça. Je voudrais juste nommer un tout petit moment du spectacle qui est bizarrement, d'ailleurs, le plus fort, c'est assez paradoxal, c'est la lettre que lit Marie-Sophie Jerdan à un amant à deux reprises, qui est vraiment un moment de littérature, ni plus ni moins. Hein. Et c'est paradoxal, pourquoi ? Parce que c'est aussi le moment où Marie-Sophie Jerdan s'efface, où la lumière blanche devient, voilà, on est presque dans le noir. Elle lit tout simplement le texte, et finalement, je me suis dit, c'est étonnant parce que c'est le moment où elle se rapproche le plus de Barbara, c'est-à-dire là, on retombe un peu dans l'espace noir, dans l'espace mystérieux, que c'est le plus puissant, et c'est pas pour rien parce que ça reconnecte avec la jeunesse du projet, qui était tout simplement une lecture.
Marie, pour finir, ce texte, c'est bien ce texte où elle dit à son amant qu'elle va le quitter.
Oui,
c'est
ça.
Elle dit qu'elle ne veut pas d'une vie commune,
oui,
classique.
Alors qu'ils s'aiment, en fait, ils sont au sommet de leur amour et pourtant c'est maintenant qu'il faut se quitter parce qu'après ça va dégringoler et c'est pas ça qu'elle veut. Il y a aussi un autre moment que j'ai trouvé très beau, mais c'est un moment un peu anti-théâtral et très théâtral, c'est ils ouvrent la fenêtre. Mm-hmm. C'est très bête, on est dans cette boîte blanche, mais à un moment donné, et la fenêtre de la petite salle du rond-point donne sur
l'extérieur. Donne sur la rue,
Et je sais pas pourquoi, d'un coup il y a la réalité qui rentre, il y a l'air frais, il y a l'odeur de l'extérieur et ils sont tous les deux la fenêtre, je crois qu'ils fument, enfin je sais pas ce qu'ils font, il y a un espèce de moment un peu silencieux comme ça, et là il y a un moment de réalité, de vérité qui entre, et ça c'est très beau.
C'est donc Barbara par Barbara, de Clémentine Déroudy à Arnaud Catherine, mise en scène par Emmanuel Noblet, avec Marie-Sophie Jerdan. C'est jusqu'au 23 novembre au Théâtre du Rond-Point à Paris, puis il y aura une tournée, notamment à Deauville le 7 décembre, à Vannes le 9, toutes les dates sont évidemment sur la page des Midis de Culture. Victorine Hissin, Marie Sorbier, merci beaucoup d'être venue dans les Midis. Évidemment, toutes les références de ces spectacles sont sur la page des Midis de Culture.